Donc cet après-midi, nous allons avoir le grand plaisir d'écouter Sourata Fernandez, qui est actuellement professeure d'économie politique et de sociologie à l'Université de Sydney, mais qui avant a enseigné dans différents départements et universités américaines. Donc Sourata Fernandez travaille sur les questions d'économie politique et de sociologie. Elle a notamment développé une approche ethnographique approfondie de différents mouvements sociaux et économiques au niveau mondial. Elle est l'auteur de plusieurs livres sur les luttes culturelles et artistiques à Cuba, sur les mouvements sociaux vénézuéliens ou sur la génération hip-hop mondiale. Donc vous voyez son livre Close to the Edge, qui est devenu un classique en la matière. Et nous tenions beaucoup à sa présence pour cette conférence en raison de cette expérience de terrain multisitué dans différents espaces d'appropriation du hip-hop, puisqu'elle a fait des terrains approfondis à Cuba, au Venezuela, en Australie et aux États-Unis. Et de ce fait, elle a développé une expertise à propos de ces questions d'appropriation globalisée du hip-hop. Et il nous semblait particulièrement intéressant, en deuxième keynote, après celle que nous a offerte Murray Forman hier, d'avoir cette approche à partir de la transnationalisation du hip-hop. Donc son intervention d'aujourd'hui porte sur la manière dont le hip-hop peut ou non constituer un vecteur d'union entre les populations descendantes des populations africaines de différents pays. Et du coup, voilà, je tiens aussi à la remercier beaucoup d'être venue depuis Sydney. Thank you so much for coming from Sydney. Un voyage très long. Et donc, je lui laisse la parole. Je vais faire la traduction simultanément. Donc, voilà, on fera paragraphe par paragraphe.
Okay. Bonjour, good afternoon. Hi, everybody. My apologies in advance that I don't speak French, so I can't give this presentation in French, but I'll, as Alice just said, I'll give it in English and be translated. Thank you so much to the organizers of this conference for inviting me here. I'm really, really happy to be here among all of you and to have the pleasure of hearing other people's presentations, being part of this. Thank you so much to Alice, Severan, and Karim, and all of the various organizers who have put so much work into organizing this conference.
Donc voilà, Sourata explique qu'elle s'excuse par avance de pouvoir faire sa présentation en français, mais que ce sera traduit, qu'elle est très heureuse de participer à cette conférence et d'avoir pu écouter ces différentes présentations, et elle remercie le comité d'organisation du colloque.
The annual Cuban Hip Hop Festival was started in June 1995 by an association of rappers known as Grupo Uno. They worked on a shoestring budget to make the concerts happen, sometimes without electricity, dependent on an ailing sound system or resources donated from friends and neighbors. The organizers of the Hip Hop Festival collaborated with the Black August Hip Hop Collective in the United States to bring American rappers out to the festivals. In 1998, Mos Def, Talib Kweli, DJ High Tech, and Dead Prez performed at the festival. And Common made an appearance at the 1999 festival.
Alors, le festival annuel de hip-hop de Cuba a été initié en juin 1995 par une association de rappeurs connue sous le nom de Grupo Uno. Ils travaillaient alors avec un budget minimal pour organiser les concerts, parfois sans électricité et en dépendant d'un sound system en piteux état ou de ressources fournies par des voisins et par des amis. Les organisateurs du festival de hip-hop collaboraient avec un collectif hip-hop états-unien qui s'appelle Black August pour faire venir des rappeurs états-uniens durant les éditions du festival. Et Sourata note qu'en 1998, Mos Def, Talib Kweli, DJ High Tech et Dead Prez donnèrent des concerts durant le festival et que Common fit une apparition durant l'édition de 1999.
When Dead Prez rapped, "I'm an African, I'm an African," in front of a crowd of thousands at the festival, the amphitheater resounded with the thundering response of the Cuban audience chanting back the words. It was Pan-Africanism in motion. But the politics didn't always translate. Unaware of the implications of what he was about to do, rapper M1 pulled out a dollar bill on stage and began to burn it with a cigarette lighter. An act considered illegal and a defacement of property in the United States. Because of this dollar, the children in my country are dying for crack or for drugs or for bling bling, he said. The audience went wild. How could he be burning a precious dollar bill? Give me that dollar, they cried. I can buy some bread or some French fries, people in the audience cried out. Then he began to burn a $10 bill. No, stop, screamed the audience. What is that crazy guy doing? I could feed my whole family for a month with that. One member of the American delegation, Raquel Rivera, was translating, explaining to the baffled audience that in America, black people are dying because of the dollar bill. But here in Cuba, shouted one person, half seriously, people are dying of hunger.
Donc, Surata est en train d'écrire une scène du concert de Dead Prez en 98 qui rappelle les paroles « Je suis un Africain, je suis un Africain » devant les milliers de spectateurs du festival de hip-hop de Cuba et où l'amphithéâtre résonnait avec l'écho retentissant du public cubain qui répétait ces mots. Et elle explique qu'il s'agit d'un panafricanisme en mouvement. Pourtant, les dimensions politiques n'étaient pas toujours traduites. Et inconscient des répercussions de ce qu'il était sur le point de faire, le rappeur M1 sortit un billet d'$1 sur scène et commença à l'enflammer avec un briquet, un acte illégal et considéré comme de la dégradation de propriété aux États-Unis. À cause de ce billet, les enfants de mon pays meurent pour du crack ou des drogues ou du bling-bling. À ce moment-là, le public devint fou. Comment pouvait-il brûler ce précieux billet d'$1 ? « Eh non, donne-moi ce dollar, je peux acheter du pain ou quelques frites », criaient des personnes dans le public. Puis il commença cette fois à enflammer un billet de $10. « Non, arrête !» hurlait le public. « Qu'est-ce que ce fou est en train de faire? Je pourrais nourrir toute ma famille pendant un mois avec ça. » Un membre de la délégation, Raquel Rivera, traduisait en expliquant à l'audience un peu déroutée qu'aux États-Unis, les Noirs meurent à cause de ce billet d'$1. « Mais ici, à Cuba, » cria une personne à moitié sérieusement, « les gens meurent de faim. »
In my talk today, I want to consider the questions, can hip-hop, a subculture that includes, among other things, rapping, b-boying, DJing, beat-making, graffiti writing, forge political alliances between marginalized and Afro-descendant people across the world? Is there such a thing as a global hip-hop generation, and could it act politically? This talk draws from my larger work, a book entitled Close to the Edge, In Search of the Global Hip-Hop Generation. The book is based on my experiences in four cities, Havana, Chicago, Sydney and Caracas, over a period of 11 years.
Donc, dans sa conférence d'aujourd'hui, Surata souhaiterait réfléchir à ces questions. Le hip-hop en tant que sous-culture ou subculture qui comprend le rap, le b-boying, le DJing, le beatmaking et le graffiti, peut-il sceller des alliances politiques entre des populations afro-descendantes marginalisées au travers du monde ? Existe-t-il quelque chose comme une génération hip-hop mondiale et peut-elle agir politiquement ? Alors cette conférence, elle repose sur des recherches plus vastes et notamment sur le livre intitulé Close to the Edge, à la recherche de la génération hip-hop mondiale, un livre qui était déjà basé sur ses expériences dans quatre villes, La Havane, Chicago, Sydney et Caracas, sur une période de 11 années de recherche.
In some ways, my search for a global generation traced the paths that hip-hop itself had traversed across the globe. The first rap song to go global was the Sugar Hill Gang's 1979 hit, Rapper's Delight. In Cuba, the song was called Apeneje because nobody could make sense of the lyrics. Likewise, in Venezuela, kids were blown away by the style of rhyming and the catchy beat. But it was so long and incomprehensible that it was rebaptized La Cotorra, the term for a pompous and long-winded speech. Other replicas surfaced across the globe from Jamaica to Brazil and Germany, where it was called Rapper's Deutsch. As the first rap song to go global, Rapper's Delight embodied the mix of fascination and incomprehension that would accompany the spread of early rap.
Donc, sous certains aspects, sa recherche d'une génération hip-hop mondiale retrace le parcours que le hip-hop a effectué au travers du monde. Donc, la première chanson de rap à faire le tour du monde a été le hit de Sugar Hill Gang, paru en 79, Rapper's Delight. Et Surata note qu'à Cuba, cette chanson était appelée Apeneje, car personne ne comprenait le sens des paroles de cette chanson. Idem au Venezuela, les enfants étaient fascinés par la manière de rimer et par le beat emportant, mais le titre était tellement long et incompréhensible qu'il fut rebaptisé La Cotorra, en référence à un terme qui désigne les discours pompeux et interminables. Alors d'autres imitations sont apparues dans le monde, de la Jamaïque au Brésil en passant par l'Allemagne, où il était appelé Rapper's Deutsch, l'allemand des rappeurs. En tant que premier titre de rap globalisé, Rapper's Delight incarnait le mélange entre fascination et incompréhension qui a accompagné la propagation du rap dans un premier temps.
By the early 80s, the global circulation of hip-hop through the music industry was being paralleled by the endeavors of hip-hop ambassadors like Afrika Bambaataa. Bambaataa wanted to spread a message of black brotherhood and unity through his organization, the Universal Zulu Nation. In April 1982, Bambaataa's single, Planet Rock, was an anthem for this nascent movement that was producing chapters across the city. Bambaataa's mission to forge a global hip-hop community echoed the aspirations of Pan-Africanist Marcus Garvey. His mission was taken up by three generations to come. Chuck D of Public Enemy took his vision of a black planet around the globe in the late 80s, paying visits to local communities while on foreign tours. The Black August Hip Hop Collective was formed in the late 90s to draw connections between radical black activism and hip hop culture. They organized exchanges between militant rappers in the US, Cuba, and South Africa. And the new millennium was the era of diasporic rappers who forged a politics of global solidarity from within the heart of empire.
Donc, au début des années 80, la circulation mondiale du hip-hop au travers de l'industrie musicale a coïncidé avec des initiatives des ambassadeurs du hip-hop tels qu'Afrika Bambaataa. Donc Bambaataa voulait diffuser un message de fraternité et d'unité noire au travers de son organisation, la Universal Zulu Nation. Et en avril 82, le single de Bambaataa, Planet Rock, représentait l'hymne de ce mouvement naissant qui commençait à essaimer des sections dans la ville de New York. Et cette mission d'Afrika Bambaataa d'unifier une communauté hip-hop mondiale faisait avant ça écho aux aspirations panafricanistes de Marcus Garvey, et elle a aussi été reprise par la suite par trois générations, donc notamment Chuck D du groupe Public Enemy, qui a repris sa vision d'un monde noir globalisé à la fin des années 80 en rendant visite à des communautés noires locales lors de ses tournées étrangères. Le Black August Hip Hop Collective s'est formé à la fin des années 90 pour tisser des connexions entre les organisations politiques noires radicales et la culture hip-hop. Et ils ont organisé des échanges entre des militants rappeurs aux USA, à Cuba et en Afrique du Sud. Et le nouveau millénaire a été l'ère des rappeurs diasporiques qui ont créé des politiques de solidarité mondiale au cœur même de l'Empire.
These hip-hop ambassadors had their counterparts among intellectuals such as Paul Gilroy, who proposed the idea of the Black Atlantic as a space of exchange, belonging, and identity among Afro-diasporic communities that surpass national boundaries. Music held a privileged space in the Black Atlantic, unseating the primacy of language and writing as expressive forms. But blackness did not always have to be the element connecting marginalized communities. George Lipsis saw Planet Rock as part of an international dialogue built on the imagination of the urban poor around the world who were suffering from the effects of global austerity policies imposed by transnational capital. Another set of scholars have more recently used the trope of the global hip-hop nation to express the diffusion of hip-hop and its social location as a universal cultural space. All of these scholars saw the potential of the market for carrying important political ideas between cultures.
Alors ces ambassadeurs hip-hop, ils trouvent des homologues auprès des intellectuels, à l'instar de Paul Gilroy, qui proposait avec son concept d'Atlantique noire, il parlait d'Atlantique noire pour désigner cet espace d'échange, d'appartenance et d'identification parmi les communautés afro-diasporiques, un espace qui dépassait les frontières de la nation. La musique détient une place privilégiée dans ce modèle de l'Atlantique noire de Gilroy, détrônant la primauté du langage et de l'écriture comme forme d'expression. Mais l'identité noire n'est pas toujours, ou ne doit pas toujours être l'élément connectant ces communautés marginalisées, puisque par exemple, George Lipsis voyait Planet Rock comme faisant partie d'un dialogue international construit sur l'imaginaire des populations urbaines précaires au travers du monde, populations qui subissent les effets des politiques mondiales d'austérité imposées par le capital transnational. Un autre ensemble de chercheurs a aussi plus récemment utilisé le trope de la nation hip-hop mondiale pour rendre compte de la diffusion du hip-hop et de son ancrage social comme espace culturel universel. Donc, tous ces différents auteurs perçoivent le potentiel du marché pour transmettre d'importantes idées politiques entre les cultures.
The same year as Planet Rock was released, another single called The Message came out. It was credited to Grandmaster Flash and the Furious Five. Where Planet Rock preached universal brotherhood and transcendence, the message was an edgy take on ghetto life from the heart of Reagan's America. Where Bambaataa envisaged a universal consciousness, the message was concerned with the specifics of everyday survival in the ghetto. At the same time, the message came to represent a profound counterforce in global hip-hop history, and it offered a lesson that could not be ignored. This local specificity emerged as key in the global spread of hip-hop. Hip-hop was shaping a language that allowed young people to negotiate a political voice for themselves in their societies. The genesis of hip-hop in each place was highly dependent on the histories hip-hoppers faced from within their own societies. The hip-hop nation as a transnational space of mutual learning and exchange may not have been a concrete reality, but the transient alliances that hip-hop has imagined across boundaries of class, race, and nation gave them the resources and the platform they needed to tell their stories and provided the grounds for their locally based political actions.
Alors, la même année que Planet Rock, un autre single intitulé The Message paraissait, crédité Grandmaster Flash and the Furious Five. Et alors que Planet Rock prêchait une transcendance et une fraternité universelle, The Message était une vision anxieuse sur la vie du ghetto dans l'Amérique de Ronald Reagan. Et là où Bambaataa envisageait une conscience universelle, The Message s'intéressait aux spécificités de la survie au quotidien dans les ghettos. Dans le même temps, The Message en vint à représenter une profonde alternative ou contre-force dans l'histoire du hip-hop mondial, et il offrait une leçon qui ne pouvait pas être ignorée. Cette spécificité locale, elle s'imposa comme une clé dans la diffusion mondiale du hip-hop, puisque le hip-hop créait un langage qui permettait aux jeunes de négocier une voie politique propre dans leur société. La genèse du hip-hop était dans chaque cas hautement dépendante des histoires, des réalités et des contraintes auxquelles les hip-hoppers partout dans le monde étaient confrontés dans leurs contextes sociaux. La nation hip-hop, comme espace transnational d'apprentissage et d'échange mutuel, n'était peut-être pas une réalité tangible. Mais les alliances fugaces que les hip-hoppers imaginaient au-delà des barrières de classe, de race ou de nation leur apportaient des ressources et la plateforme dont ils avaient besoin pour raconter leurs histoires, et elles fournissaient les bases pour leurs actions politiques ancrées dans le local.
The first wave of global hip-hop consisted largely of graffiti and the dance style of b-boying, or breakdancing as it's more commonly known. Many global fans had their first glimpse of b-boying in the Hollywood blockbuster Flashdance, released in 1983. In one brief scene of the film, Rocksteady crew members b-boy to Jimmy Castor's It's Just Begun. Over the next few years, Hollywood capitalized on the international success of Rocksteady's Flashdance cameo. They produced a string of what Jeff Chang calls teen-targeted hip-hop exploitation flicks, including Breakin', Beat Street, and then Body Rock, Fast Forward, and Breakin' 2 Electric Boogaloo. These films served up a watered-down version of the culture, but they became some of the first hip-hop artifacts to circulate the globe. Through both legit and bootleg copies, aspiring b-boys and b-girls everywhere saw the films, got out their cardboard strips, and in schoolyards, train stops, and street corners, they began to practice the moves.
Donc, pour retracer les débuts de cette globalisation du hip-hop, la première vague de globalisation du hip-hop, elle consista en grande partie en la diffusion du graffiti et du style de danse b-boy, ou breakdance, comme on l'appelle plus communément. Et du coup, beaucoup de fans dans le monde ont eu leur premier aperçu de cette culture dans le film à grand succès Flashdance, paru en 83. Dans une brève scène du film, les membres du Rocksteady Crew dansent sur le titre de Jimmy Castor, It's Just Begun. Dans les années suivantes, Hollywood a investi beaucoup dans le succès international de cette brève apparition de Rocksteady Crew dans Flashdance. Ils produisirent une série de ce que Jeff Chang appelle des films d'exploitation commerciale du hip-hop à destination des adolescents, dont Breakin', Beat Street, Body Rock, Fast Forward ou Breakin' 2 Electric Boogaloo. Ces films, ils servaient en fait une version diluée de la culture hip-hop, mais ils devinrent certains des premiers produits hip-hop à circuler dans le monde. Au travers de copies légales ou illégales, des aspirants b-boys et b-girls de partout dans le monde regardèrent ces films et ils sortirent, je ne sais pas comment traduire ça, leur carton ou leur bande de carton pour aller dans les cours d'école, les arrêts de bus ou de train et les coins de rue et commencer à recopier, à pratiquer ces mouvements-là.
Many MCs had their start as b-boys or b-girls. Growing up in the 80s, the Cuban rapper Alexei from the rap duo Obsession was attracted by the raw energy and soul of the hip-hop music that came along the airwaves of 99 Jams FM. As a kid, he would build antennas from wire coat hangers and dangle his radio out of the window, crazy to get the 99. On episodes of Soul Train that came through broadcast from Miami Television, Alexei saw b-boying for the first time, and he copied the steps and then showed them to the kids in the neighborhood. Alexei remembered the dance ciphers in the park El Quijote. Kids would form a circle, and in the center, the b-boys would polish the concrete with their backspins and windmills, while others broke into a beatbox or rhymed.
Alors beaucoup de MC ont donc fait leur début comme B-boy ou B-girl. Et donc elle cite l'exemple d'Alexei, un rappeur cubain qui a grandi dans les années 80, membre du duo de rap Obsession, et qui était attiré par l'énergie brute et l'âme de la musique hip-hop qui lui parvenait via les ondes de la 99 Jams FM. Donc enfant, il construisait des antennes à partir des fils des porte-manteaux et il agitait sa radio en dehors de la fenêtre pour avoir la radio 99. Dans des épisodes de Soul Train rediffusés sur la télévision de Miami, Alexei vit le b-boying pour la première fois et il commença à copier les pas et à les montrer aux enfants de son voisinage. Du coup, Alexei se souvient des cyphers de danse dans le parc El Quijote, où les enfants formaient un cercle et au centre, les b-boys astiquaient le béton avec leurs pirouettes arrière et leurs moulins, pendant que d'autres commençaient à faire du beatbox ou à essayer de rimer.
Julio Cardenas, aka El Hip Hop Kid, was a rapper from the Alamar housing projects just outside of Havana. Julio was raised by his mother in the neighboring sector of Guanabacoa. As a kid, he would come rushing home from school to watch the b-boys retándose and retarse. That's the Spanish words for battling. And tirando cartones is, again, the slang for laying out the cardboard strip on the back patio of his building. They watched Beat Street, Fast Forward, Break-In, and they copied the moves. Julio moved to Alamar at the age of 15, becoming caught up in the hip-hop movement that was taking Alamar by storm. He would go to the moños, or the block parties, where people rapped and DJed.
Donc Surata décrit maintenant l'exemple de Julio Cardenas, qui est aussi connu sous le nom de El Hip Hop Kid. Donc c'est un rappeur issu d'Alamar. Donc on pourrait dire qu'Alamar, c'est une espèce de projet résidentiel construit pour des classes travailleuses plutôt pauvres, classes ouvrières pauvres, et situé juste en dehors de la Havane. Julio a été élevé par sa mère dans le voisinage de Guanabacoa. Et enfin, il se ruait à la maison à la sortie de l'école pour regarder les b-boys retándose et retarse, ce qui veut dire s'affronter et tirer des cartons ou étaler des cartons sur la terrasse arrière de son immeuble. Donc il regardait Beat Street, Fast Forward, Breaking et eux aussi, ils copiaient les mouvements. Julio partit pour Alamar à l'âge de 15 ans, emporté par la vague hip-hop qui prenait alors la ville comme une tempête. Et il se rendait dans les moños, ou l'équivalent des block parties, où les gens rappaient et faisaient du DJing.
After Julio finished school, he went on to technical college to do a degree in civil construction. But he graduated at the height of Cuba's special period, when there were no jobs, and so he went to work with his grandfather in a nearby fishery for some cash to help out his mother and to get the local authorities off his back. Eventually, he found a job as a bridge operator, raising and lowering the bridge that connected Alamar and Cojimar to allow the ships to pass through. The job was a no-brainer. At 7 a.m., Julio would raise the bridge, and by early afternoon, when all the jobs had gone through, he would sit back with his friends, exchanging news about who had the latest rap magazine from the States, had they heard this song from Farside or EMPD.
Donc après que Julio ait fini l'école, il partit dans un collège technique pour faire un diplôme de construction civile, mais il passa un diplôme au moment de la période spéciale de Cuba, une période de crise où il n'y avait pas d'emploi, et il alla donc travailler avec son grand-père dans les poissonneries voisines pour avoir des revenus, pour aider sa mère et pour se débarrasser des autorités locales sur son dos. Alors finalement, il a trouvé un emploi comme opérateur de pont, où il était chargé de lever et d'apaiser le pont qui connectait Alamar et Corimar pour permettre aux bateaux de passer. Donc le travail en soi ne posait pas de problème, puisqu'à 7h du matin, Julio levait le pont, et en début d'après-midi, quand tous les bateaux avaient traversé, il s'asseyait avec des amis, échangeant des nouvelles à propos de qui avait le dernier magazine de rap des États-Unis ou s'ils avaient entendu cette chanson de Farside ou EMPD.
In 96, Julio formed the group Raperos Crazy de Alamar, RCA, along with Carlito Melito, a carpenter, and Joan. They started out just to amuse themselves without ambitions of being serious artists. He says, that moment we were living was so critical, so boring. Everything was closed off and censored. We, the youth, were doing hip-hop just to do something, looking for a way to have fun.
Donc en 96, Julio forme un groupe de rap appelé Raperos Crazy de Alamar, RCA, avec Carlito Melito, un charpentier, et un autre ami, Johan. Donc au début, c'était juste pour s'amuser, sans ambition de devenir des artistes. Et donc Julio dit, ce moment que nous vivions était si critique, si ennuyant, tout était barré et censuré. Et nous, les jeunes, nous faisions du hip-hop juste pour faire quelque chose en cherchant un moyen de s'amuser.
The rap scholar Trisha Rose identified this need to break the cycle of boredom and alienation as one of the factors that underlay the rise of hip-hop in its birthplace, the Bronx. While Cuba presented quite specific conditions of economic crisis combined with political restrictions, this void wasn't something peculiar to Cuba. For Monkey Muck, an Aboriginal hip-hop producer in Sydney's West Side, it also started in 1984 with Beat Street. Jigging school, getting some money, and going and watching Beat Street every day because I wanted to see how they did those windmills and all those mad moves, he said. First time you saw it was like, whoa, wait a second, I want to do that, man. That looks pretty cool. So next day I'm back at the cinema again. Next day I'm back there again. It's like a religion, going there every day to watch Beat Street. He and some friends started going to inner city Redfern, a densely populated Aboriginal enclave where some of the local kids were b-boying. Later, they also joined a local graffiti crew from Redfern called Black Connection. From b-boying and graffiti, Monkey Muck began rapping and he started the group SWS in 1992. I wasn't that interested in school, he said. For English class, I was in the English as a second language group when English was my first language. We started hanging out and the hip hop evolved from that. It broke the boredom.
Donc la chercheuse sur le rap Tricia Rose identifiait ce besoin de rompre le cycle de l'ennui et de l'aliénation comme l'un des facteurs sous-jacents à l'émergence du hip-hop dans son berceau d'origine, le Bronx. Et Surata note que même si Cuba présentait des conditions plutôt spécifiques de crise économique combinées avec des restrictions politiques, cet ennui n'était pas spécifique à Cuba. Et donc elle donne un autre exemple d'un producteur aborigène de l'ouest de Sydney qui s'appelle Monkey Muck, pour qui tout a commencé aussi en 84 avec Beat Street. Et il raconte, sécher l'école, trouver un peu d'argent et aller regarder Beat Street tous les jours parce que je voulais voir comment il faisait ses moulins et tous ses incroyables mouvements. La première fois que je l'ai vu, c'était comme, waouh, attends un peu, je veux faire comme ça, mec. Ça a l'air super cool. Donc le jour suivant, je suis de retour au cinéma, de nouveau, et le jour d'après, j'y vais de nouveau. C'est devenu comme une religion, aller là-bas pour regarder Beat Street tous les jours. Donc lui et quelques amis commencent alors à se rendre dans la ville de Redfern, une enclave peuplée de nombreux aborigènes où beaucoup d'enfants faisaient du b-boy. Plus tard, ils rejoignent un crew de graffiti local de Redfern nommé Black Connection. Et à partir du b-boying et du graffiti, Monkey Muck commence à rapper et il débute un groupe appelé SWS en 92. Donc il dit « j'étais pas intéressé par l'école et les gens de notre crew n'étaient pas très assidus à l'école, donc on a commencé à traîner dehors et le hip-hop est parti de ça parce que ça cassait l'ennui en fait. »
From the Alamar projects to Sydney's West Side, hip-hop was a way out of the boredom. It wasn't the same boredom of kids in the middle-class suburbs wanting reprieve from a sheltered existence. It was the boredom of low-paying, menial jobs and truncated opportunities. And hip-hop wasn't just a distraction from the void. It was a way of recreating a sense of community and finding spaces of pleasure in the face of atomization, isolation, and the regimentation of life.
Donc, ce qu'on voit avec ces exemples, c'est que d'Alamar Projects à Sydney West Side, le hip-hop était un échappatoire à l'ennui, mais il ne s'agissait pas du même ennui que celui des enfants des quartiers résidentiels qui étaient plus à la recherche d'un répit en dehors de leur petite vie protégée. Ici, c'était l'ennui des salaires précaires, des emplois subalternes et des opportunités tronquées. Et le hip-hop n'était pas qu'une distraction contre le vide. C'était aussi un moyen de recréer un sens de la communauté et de trouver des espaces de plaisir dans un contexte d'atomisation, d'isolation et de discipline étouffante de la vie.
Others, like the Aboriginal performer Wyatta Telfer, remembers her involvement in the predominantly male culture of b-boying as a way of escaping the violence and unhappiness of her life. Wyatta was captivated by b-boy culture. She and her little brother would watch breakdance, Beat Street, and Electric Boogaloo on an old Betamax machine, and they'd try to copy the moves. When she was 13, Wyatta had a dance crew with her brother and another boy, and they carried around their cardboard strip everywhere they went. "I used to spin on my back and do the worm," she remembered. "As usual, the boys used to do all the power moves. My brother would do the windmills, and I'd be there doing the moonwalk and the robot. I remember I wanted to be just like Baby Love from the Rocksteady crew, BB boys and BB girls all around the world." It was about sharing a message and also having some fun, dancing and having a good time. I'd grown up in a household where there was just a lot of violence and exposure to criminal activity because of poverty, she said. So for me, music was a way to escape, really, and have a sense of happiness.
Donc, autre exemple, la rappeuse aborigène Wyatta Telfer se souvient pour sa part de son implication dans une culture essentiellement masculine du b-boying comme d'une manière d'échapper à la violence et au malheur dans sa vie. Donc Wyatta était aussi captivée par la culture hip-hop. Elle et son petit frère regardaient breakdance, Beat Street et Electric Boogaloo sur une vieille machine à cassette Betamax et ils essayaient aussi de recopier les mouvements. Quand elle avait 13 ans, Wyatta avait un crew de danse avec son frère et un autre garçon et ils apportaient leurs cartons partout où ils allaient. Donc elle se souvient, je tournais sur le dos et je faisais la figure du verre. Et comme toujours, les garçons faisaient tous les mouvements forts. Mon frère faisait les moulins et j'étais là à faire le moonwalk et le robot. Je me souviens que je voulais juste être comme Baby Love de Rocksteady Crew, être des b-boys et des b-girls partout dans le monde. C'était donc l'idée de partager un message et aussi de s'amuser, de danser et de passer du bon temps. J'ai grandi dans un foyer où il y avait juste beaucoup de violence et d'exposition à des activités criminelles à cause de la pauvreté. Donc pour moi, la musique était vraiment un moyen de s'échapper et d'avoir un sentiment de bonheur parce que la vie dans laquelle je grandissais comportait des choses très dures.
By the mid-1980s, the elements of graffiti and b-boying were in decline and rap emerged as a central means by which hip-hop culture was packaged for global consumption. At this time, rap movements also began to develop in various countries. Young people rhymed on street corners using a human beatbox. As more serious rap crews began to develop, they realized that they needed background beats, which often required expensive equipment. But like their Bronx counterparts who developed the sound system from abandoned car radios and made turntable mixes from microphone mixers, global hip-hoppers adapted materials from their local environment.
Alors, au milieu des années 80, le graffiti et le b-boying étaient en déclin et le rap émergea comme média central au travers duquel la culture hip-hop était formatée en vue de sa consommation mondiale. À cette période, des mouvements rap commencent à se développer dans différents états et des jeunes rappent au coin des rues utilisant du human beatbox. Tandis que des crews plus sérieux se développent, ils réalisent qu'ils ont besoin de beats en arrière-plan, ce qui requiert parfois un équipement onéreux. Mais comme leurs homologues du Bronx, qui développent les sound systems en abandonnant les radios des voitures et font des tables de mixage à partir de mélangeurs de microphones, les hip-hoppers à travers le monde adaptent les matériaux de leur environnement local.
Coming from poor communities without access to art schools or music lessons, hip-hop producers often had to teach themselves how to produce music. Monkey Muck listened to a lot of old funk records. He listened to the Bootsy Collins bass lines and worked out how to play them. "I had to figure out, how do you put this stuff together?" Monkey Muck said. "No one told me. It was all trial and error, pulling apart tracks and figuring out, hold on, there's a bass line and a guitar part, keyboard part, singing. How does it all work? I taught myself guitar, keyboards, and then started figuring out how to put it all together." He got loans from his brother who was working at a scrap metal yard to buy a sequencer and a Roland DJ-70 sampler. Likewise, DJ Precise from Chicago's South Side had an older brother, Jesus, who was a car mechanic, and he and Precise mastered the inner machinery of their turntables by taking them apart and putting them back together again.
Donc, surtout issus de communautés pauvres, sans accès aux écoles d'art ou à des leçons de musique, les producteurs ou concepteurs de hip-hop devaient souvent apprendre la production musicale de façon autodidacte. Donc, elle donne plusieurs exemples. Monkey Muck écoutait beaucoup de vieux disques de funk et il écoutait les lignes de basse de Bootsy Collins, par exemple, et s'entraînait à les jouer. Donc je le cite. Il fallait que je comprenne comment mettre tous ces trucs ensemble. Personne ne me l'a dit. Tout passait par le test et par des erreurs, démonter des pistes et essayer de comprendre. Bon, il y a une ligne de basse, une partie de guitare, une partie de clavier, du chant. Comment est-ce que tout ça fonctionne ? J'apprenais la guitare et le piano en autodidacte et je commençais à apprendre comment mettre tout ça ensemble. Donc, Monkey Mok obtint des prêts de son frère qui travaillait chez un ferrailleur et grâce à ça, il put acheter un séquenceur et un sampleur Roland DJ 70. Donc, un autre exemple, DJ Precise du sud de Chicago, qui lui avait un frère aîné, Jesus, qui était mécanicien et ensemble, ils apprirent la machinerie intérieure de leurs platines en les démontant et en les réassemblant.
Cuban rappers lacked samplers, mixes and albums because of the US embargo against Cuba. Cuba's first hip-hop DJ, Ariel Fernandez, improvised a set of turntables with Walkmans as the decks, simulating a mixer by using volume controls. Producers drew on a rich heritage of Afro-Cuban music and Afro-diasporic instruments to make their beats. They recreated the rhythmic pulse of hip-hop with instruments like the melodic bata drums. The group Obsession used instrumentation to evoke the era of slavery. In their song Mambi, the gentle strumming of a berimbau, a string instrument associated with Afro-Brazilian capoeira, and the water sounds produced by the traditional palo de agua give the sense of being near a river or stream, identified with the rural roots of slavery.
Donc, les rappeurs cubains manquaient beaucoup à cette période de sampleurs, de tables de mixage et d'albums en raison de l'embargo contre Cuba. Et le premier DJ de hip-hop, Ariel Fernandez, fabriqua un set de platine avec des baladeurs comme table de mixage en simulant la table de mixage en utilisant le contrôle du volume des baladeurs. Les concepteurs musicaux faisaient parallèlement appel à un riche héritage des musiques afro-cubaines et des instruments afro-diasporiques pour créer leurs beats. Ils recréaient par exemple les battements rythmiques du hip-hop avec des instruments comme les tambours bata. Et donc, il y a l'exemple du groupe Obsession, qui utilisait l'instrumentation pour évoquer l'ère de l'esclavage. Par exemple, dans leur titre Mambi, qu'on va écouter, le doux grattement du berimbau, un instrument à cordes associé à la capoeira afro-brésilienne, et les sons d'eau produits par le traditionnel palo de agua, donnent l'impression d'être près d'une rivière ou d'un ruisseau, ce qui fait lien avec les origines de l'esclavage.
Garganta desencadena fuegos artificiales.
¿Cuáles?
Desde que sabe que también merece papeles protagónicos.
Y es lógico.
Quien me escucha ya es parte de un momento histórico.
Único.
Porque tengo propósitos revolucionarios.
Hip hop culture drew on black aesthetics and a language of black brotherhood to forge solidarities between black and Afro-descendant youth across the globe. When American rappers visited Cuba, they were met with a sense of great expectation and enthusiasm. Their language of black nationalism resonated with Cuban youth, feeling the experience effects of racial discrimination as their once radical leaders pursued policies of austerity. Like the African American activists who visited Cuba during the 1960s and 70s, from Stokely Carmichael through to Angela Davis and Assata Shakur, African-American rappers such as Paris, Common, Mos Def, and Talib Kweli spoke a language of black militancy that was appealing to Cuban youth. While a black radical such as Marcus Garvey enjoyed less support among Afro-Cubans in the 1920s, the black nationalist aspirations of African-American rappers have been received with considerably more enthusiasm by a population of Afro-Cuban youth increasingly feeling the effects of racial discrimination in the post-Soviet period.
Donc, la culture hip-hop se basait sur des esthétiques noires et sur un langage de fraternité noire pour tisser des solidarités entre des jeunes noirs et afro-descendants au travers du monde. Donc, quand les rappeurs états-uniens visitaient Cuba, leur rencontre, leur arrivée était porteuse de beaucoup d'attentes et d'enthousiasme chez les jeunes Cubains. Et leur discours de nationalisme noir parlait à la jeunesse cubaine qui ressentait à cette période les effets de la discrimination raciale, alors que leurs leaders politiques autrefois radicaux poursuivaient des mesures d'austérité. Comme les activistes afro-américains qui visitaient Cuba durant les années 60 et 70, de Stokely Carmichael à Angela Davis, en passant par Assiata Shakur, les rappeurs afro-américains comme Paris, Common, Mos Def et Talib Kweli employaient un langage de militantisme noir qui attirait la jeunesse cubaine. Alors qu'un militant radical noir comme Marcus Garvey recevait moins de soutien parmi les afro-cubains dans les années 20, les aspirations au nationalisme noir des rappeurs afro-américains ont été reçues avec bien plus d'enthousiasme par une population de jeunes afro-cubains qui, à l'époque, ressentaient de façon croissante les effets de la discrimination raciale dans la période post-soviétique.
The song Tengo by the group Hermanos de Causa presents the resurgence of racism in the contemporary period in striking contrast to the post-revolutionary euphoria of Afro-Cubans who saw in the Cuban Revolution the possibilities of an end to racial discrimination. Borrowing the title and format of a 1964 poem by the celebrated Afro-Cuban poet Nicolás Guillén, where the poet lists the changes that the revolution has brought for blacks, Hermanos de Causa instead described the situation for young Afro-Cubans in the contemporary post-Soviet period. Cuban rappers were reintroducing Cuban rappers were reintroducing a lexicon of race and racism that had been abandoned for many years because the revolution had supposedly resolved issues of racism. Rap music became a voice for black Cuban youth who did not live through the earlier period of revolutionary triumph and were hardest hit by the failure of the institutions established under the revolution to provide racial equality in the contemporary period.
Donc la chanson Tengo, G, du groupe Hermanos de Causa, décrit la résurgence du racisme dans la période contemporaine et ses contrastes frappants avec l'euphorie post-révolutionnaire des Afro-Cubains qui avaient vu dans la révolution cubaine une possibilité de mettre fin aux discriminations raciales. Donc le groupe Hermanos de Causa emprunte le titre et le format d'un poème de 1964 du poète afro-cubain très célèbre Nicolás Guillén, où il listait les changements que la révolution avait apportés pour les Noirs. Mais dans ce titre de rap, le groupe Hermanos de Causa décrit à l'inverse la situation des jeunes afro-cubains dans la période contemporaine post-soviétique. Et comme le montre ce titre qu'on va écouter, les rappeurs afro-cubains ont réintroduit un lexique de la race et du racisme qui avait été abandonné depuis des années parce que la révolution était censée avoir résolu ces problèmes de racisme. Donc le rap est devenu une voie pour la jeunesse cubaine noire qui n'avait pas connu l'ancienne période de révolution triomphante et était durement frappée par l'échec des institutions établies durant la révolution, un échec à fournir une égalité raciale dans la période contemporaine.
Oscura y discriminada. Tengo una jornada que me exige y no da nada. Tengo tantas cosas que no puedo ni tocarlas. Tengo instalaciones que no puedo ni pisarlas. Tengo libertad entre un paréntesis de hierro. Tengo tantos derechos sin provechos que me encierro. Tengo lo que tengo sin tener lo que he tenido. Tienes que reflexionar y asimilar el contenido.
It was not always the rap lyrics that created a sense of affinity between black youth across the globe, especially in places where English was not understood. The Venezuelan gangster rappers, Guerrilla Seca and Vagos y Maleantes, were influenced by American rappers like Tupac, Nas, and Ludacris. They couldn't understand the English lyrics, but they said there was a certain flow, a feeling associated with the music that spoke to them. We can see this echoed in the song Boca del Lobo, Mouth of the Wolf, by Vagos y Maleantes. Coming from the poor barrios of Caracas, they found that the bleakness and despondency of the music echoed their lives.
Alors, Surata note que ce n'était pas toujours les paroles de rap qui créaient ce sentiment d'affinité entre les jeunes noirs du monde, particulièrement dans les lieux où l'anglais n'était pas compris. Donc, elle cite l'exemple des groupes vénézuéliens style gangsta rap, Guerrilla Seca et Vagos y Maleantes, qui étaient influencés par les rappeurs états-uniens comme Tupac, Nas et Ludacris. Donc, eux, ils ne pouvaient pas comprendre les paroles en anglais, mais ils expliquent qu'il y avait un certain flow, un feeling associé avec la musique qui leur parlait. On peut voir ça dans la chanson Boca del Lobo, la gueule du loup, de Vagos de Malientes. Donc, c'est un groupe qui vient d'un quartier pauvre de Caracas. Et ils trouvaient que le caractère sombre et le découragement contenu dans la musique hip-hop faisaient écho avec le tissu social délité de leur propre environnement.
No, no, Alice, son de aquí de la campiña.
¿Qué campiña?
¡Ay, no, 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 no,
bienvenidos a la boca del lobo, donde menos de un segundo aquí puede pasar de todo. Muertes, atracos, lo que se vive a diario en mi barrio, día y noche, noche y día.
Likewise, Julio Cardenas in Cuba was listening to American rap, but he didn't understand the lyrics or know how to rap. One day, Julio was at Pablo's house, the Cuban rap producer Pablo, listening to his latest music. He heard a song, Boricuas on the Set, by Fat Joe, featured on a compilation album. Hearing the song was a turning point in his life. It was a moment that touched my heart and opened my mind, related Julio. I was hearing a lot of music from Miami radio, LL Cool J, Two Live Crew, Queen Latifah, Moni Love, but that song inspired me. I really thought it could be the Latino-American-Cuban connection.
Donc, comme ce groupe-ci, elle revient sur l'exemple de Julio Cardenas à Cuba, qui écoutait du rap états-unien, mais qui ne comprenait pas les paroles non plus, et qui n'avait pas de piste pour voir comment écrire ses propres chansons. Et donc, un jour, Julio, dans la maison de son ami, était en train d'écouter sa dernière musique, et à ce moment, il entend la chanson Boricuas on the Set de Fat Joe, qui était incluse dans une compilation, et il explique que pour lui, entendre cette chanson était vraiment un moment charnière dans sa vie, je cite. C'est un moment qui a touché mon cœur et ouvert mon esprit. J'entendais beaucoup de musique de la radio de Miami, LL Cool J, Two Live Crew, Queen Latifah, Moni Love, mais cette chanson-là m'a inspirée. Je pense que ça pouvait être vraiment la connexion latino-américano-cubaine.
Pablo copied Fat Joe's song for Julio on a cassette. Julio would listen to the poor quality recording on his old beat-up Walkman over and over every day. I liked the beat, but I didn't know what to do, said Julio. I didn't know anything about flow, cadence, rhythm. I'd never studied music. Wow, how am I going to do it? At the start, it was all a joke, but every day I began to think about a vision of how I wanted to do the song. What was guiding me was the sound of the voices, the mixture of each, and the cadences. I started to rap over the top of his song, write my first lyrics. So when Fat Joe said, "O boricuas, clap your hands," I started saying, "Todo el mundo con los manos arriba, negros, mulatos, blancos." That was the basis of my first rap.
Donc Pablo copia la chanson de Fat Joe pour Julio sur une cassette, et donc Julio écoutait cet enregistrement de mauvaise qualité sur son baladeur encore et encore, toute la journée, tous les jours, et dit: j'aimais le beat, mais je ne savais pas quoi faire. Je savais rien à propos du flow, de la cadence, du rythme, j'avais jamais étudié la musique. Waouh, comment est-ce que je pouvais faire? Donc au début, c'était qu'un jeu, mais chaque jour, j'ai commencé à penser comment je voulais faire cette chanson. Ce qui me guidait, c'était le son des voix, le mélange de chacune d'elles et les rythmes. Du coup, j'ai commencé à rapper sur le meilleur moment de cette chanson. Donc, quand Fat Joe disait « Oh, boricuas, clap your hands », je disais « Tout le monde les mains en l'air, noir, métis, blanc ». C'est devenu la base de ma chanson « Hip-hop es mi cultura ».
But while global hip-hop has found strong connections to American hip-hop, attempts to come together in global alliances revealed the fractures that existed. The pain of racism may have been the bridge that connected the American rappers with those in the diaspora, but that racism took a different form in each context, as the Black August Hip-Hop Collective encountered during their trip to Cuba. As I described in the opening to this talk, at the Cuban Hip Hop Festival, Dead Prez burned a dollar bill as a symbol of American capitalism, horrifying local audiences who saw it as a week's worth of bread.
Tandis que les hip-hoppers du monde ressentaient des connexions puissantes avec le hip-hop états-unien, les tentatives de se réunir dans des alliances mondiales ont progressivement révélé les lignes de fracture existantes. La souffrance du racisme avait peut-être été le pont qui connectait les rappeurs états-uniens avec ceux de la diaspora, mais le racisme prenait des sens différents dans chaque contexte, ce que le collectif de hip-hop Black August découvrit durant leur voyage à Cuba. Donc là, Sorata revient sur l'anecdote qu'elle citait en ouverture de sa conférence durant le festival de hip-hop de Cuba, où Dead Prez brûla un billet $1 comme symbole du capitalisme états-unien en scandalisant le public local pour qui ce billet était l'équivalent d'une semaine de pain et d'alimentation, quoi.
The Cubans had anticipated the concerts of the Black August rappers with much emotion and excitement. But inexplicably, during the performance of the pioneer American rapper Mos Def, people started leaving the stadium. Reyes de la Calle are much better than Mos Def, some said some kids on their way out. We can't understand anything he says. The attempt to foster cultural exchange and understanding drew claims of cultural imperialism from local MCs. Some local rappers saw a gap between the politically committed lyrics of the Black August rappers and their actions. As Soandri of Hermanos de Causa told the filmmaker Vanessa Diaz, "It's not saying it, it's not singing it, it's showing it. To me, none of these people, not Dead Prez, not Common, not Mos Def, have shown me anything. They just say what they say in their songs, but they don't represent that." Soandri was bitter about the various rap collaborations done between visiting American rappers and Cuban rappers. The resulting productions tended to make money for the American artists, but not for the Cubans. Cuban rappers were getting tired of the one-way stream of Westerners treating their local scenes as exotic cultures to be packaged for the consumption of Western audiences.
Donc, durant ces festivals hip-hop, les Cubains attendaient les concerts des rappeurs du Black August avec beaucoup d'émotion et d'excitation, mais de façon inexplicable, pendant la performance du rappeur pionnier Mos Def, les gens ont commencé à quitter le stade, et donc Surata cite des enfants qui quittent le stade, qui disent « Reyes de la Calle sont mieux que Mos Def, on ne peut pas comprendre un mot de ce qu'il dit ». Et du coup, cette tentative de promotion d'échange et de compréhension culturelle suscitait aussi chez les MC locaux des remises en question d'une forme d'impérialisme culturel. Donc quelques rappeurs locaux ressentaient par exemple un fossé entre les paroles politiquement engagées des rappeurs du Black August et leurs actions. Donc là, elle cite Soandri du groupe Hermanos de Causa qui expliquait à la réalisatrice de film Vanessa Diaz « Il ne s'agit pas de le dire, il ne s'agit pas de le chanter, il s'agit de le montrer ». Pour moi, aucune de ces personnes, Dead Prez, Common, Mos Def, ne m'ont montré quoi que ce soit. Ils disent juste ce qu'ils disent dans leurs chansons, mais ils ne le représentent pas. Donc Soandri, ce rappeur, était amer à propos des diverses collaborations de rap faites entre des rappeurs états-uniens et des rappeurs cubains. Et note que les productions en résultant visaient à faire de l'argent pour les artistes américains ou états-uniens, mais pas pour les cubains. Les rappeurs cubains étaient fatigués des échanges à sens unique avec des occidentaux, traitant leur scène locale comme des cultures exotiques à marchandiser pour la consommation des audiences locales, en fait.
The Latino-American-Cuban connection was somewhat tenuous when subjected to the very real differences of language, culture, and history. The black militancy of the American rappers was not comparable to the racial consciousness of Cuban rappers. Black Cuban identity, always expressed within the boundaries of an anti-colonial nationalism, was not equivalent to American blackness, shaped through the fiery battles of abolition, desegregation, and civil rights. Cubans didn't have a civil rights movement that brought a discussion of race out into the open. The black-white dichotomy of American race relations did not exist in Cuba. While in America, even one drop of black blood categorized a person as black, Cubans had a much broader, broader spectrum of racial classifications. The militant stance of the American rappers appealed to the Cubans, particularly with its language of racial justice, but the categories of American racial politics could not be superimposed onto a culture where racial identity was not so clear-cut. At its best, hip-hop could create strength through recognizing the parallel lines of oppression that existed across cultures. At its worst, it appeared as an American export that encouraged mindless imitation and imposed one narrative of race over others.
Donc, cette connexion latino-américano-cubaine était en quelque sorte soumise aux différences très concrètes de langue, de culture et d'histoire. Le militantisme des rappeurs états-uniens n'était pas, enfin, le militantisme noir des rappeurs états-uniens n'était pas similaire à la conscience raciale des rappeurs cubains. L'identité noire cubaine, qui est toujours exprimée à l'intérieur des frontières du nationalisme en tant qu'anticolonialiste, ne peut pas être équivalente à la blackness états-unienne forgée au travers des luttes pour l'abolition de l'esclavage, la fin de la ségrégation et des droits civiques. Donc, les Cubains n'avaient pas un mouvement pour les droits civiques qui amenait des discussions sur la question raciale dans l'espace public. Et la dichotomie noir-blanc des rapports raciaux états-uniens n'existait pas à Cuba. Alors qu'en Amérique, aux États-Unis, même une goutte de sang noir catégorisait une personne comme noire, les Cubains reconnaissent un spectre bien plus large de classification raciale. Donc cette vision des rappeurs états-uniens, elle attirait les Cubains, particulièrement avec son langage de justice raciale. Mais les catégories des politiques raciales états-uniennes ne pouvaient pas être appliquées à une culture où les identités raciales ne sont pas aussi clairement délimitées. Donc en résultant, au mieux, le hip-hop pouvait créer une force en reconnaissant les lignes parallèles d'oppression qui existent entre les cultures, mais au pire, il apparaissait comme un produit exporté des États-Unis qui encourageait l'imitation inconsciente et imposait une narration unique de la race sur d'autres conceptions.
Even the idea of a brotherhood that hip-hoppers envisioned contained its own dynamics of gendered exclusion. When male hip-hoppers bonded over a DJ battle or exchanged fist bumps on a street corner, there was a sense of masculine camaraderie that left women looking on from the sidelines. Open mics and freestyle battles rarely had women participants. When women did take the mic, it was often with a different kind of presence, as explained in the song Mujeres by the Cuban rapper Mariana.
Donc même cette idée de fraternité que les hip-hoppers envisageaient entre les cultures contenait aussi ses propres dynamiques d'exclusion, cette fois dans le domaine genré. Quand les hip-hoppers hommes nouaient des liens dans un battle de DJ ou échangeaient des tapes au coin de la rue, il y avait un sens de camaraderie masculine qui laissait toujours les femmes en marge. Donc Surata décrit les battles freestyle et les sessions open mic qui incluaient en réalité rarement des participantes femmes. Et quand les femmes prenaient le micro, c'était souvent avec une présence d'un type différent, comme le raconte ou le relate la rappeuse cubaine Mariana dans un titre appelé « Femmes, Mujeres ».
Yo me nombro protagonista, pero en la pista y no en la cama, como muchas que prefieren ir de rapero en rapero para comer fama. Yo, Mariana, hago demostrar al mundo que la mujer cubana no solo sabe mover sus caderas, sino cuando se hable de hip hop somos de las primeras, las realistas, aunque seamos discriminadas por conceptos machistas.
Black women rappers frequently talk about their exclusion within hip hop culture. While male rappers speak about historical problems of slavery and marginality, Black women must face forms of marginalization from males themselves.
Donc, ces rappeuses femmes noires parlaient fréquemment de leur exclusion au sein de la culture hip-hop. Et du coup, ce qu'on note, c'est que tandis que les rappeurs hommes parlaient de leurs problèmes historiques liés à l'esclavage et à la marginalité, les femmes noires devaient, elles, affronter des formes de marginalisation par les hommes eux-mêmes.
So, in conclusion, even if the global hip-hop hood was more fantasy than actuality, maybe the lines of solidarity that hip-hoppers were looking for could be found in the diaspora. As global hip-hop began to come of age, hip-hoppers found themselves increasingly torn between the need to make a living and the desire to pursue their art. With record labels picking off a scant few to sign and promote, the rest were left to wonder in what direction their lives were headed. For many, pursuing a career in music meant leaving the comfort of their local scenes and heading to the West. Local superstars in Brazil or Kenya became busboys in New York or taxi drivers in London in order to pursue their dreams. As hip-hoppers started to move across the globe, they developed new understandings of themselves and others that helped to break down some of the misconceptions that had plagued global hip-hop. The diaspora was a base from which hip-hoppers could create broader global networks and build multiracial solidarities.
Donc pour arriver à la conclusion, même si le hood du hip-hop mondial était plus un fantasme qu'une réalité, les lignes de solidarité que recherchaient les rappeurs pouvaient être peut-être trouvées dans la diaspora. Tandis que le hip-hop global commençait à arriver à maturité, les hip-hoppers se trouvaient eux-mêmes de plus en plus déchirés entre le besoin de gagner sa vie et le désir de poursuivre leur pratique artistique. Avec des labels d'enregistrement qui choisissaient un nombre très limité d'artistes à signer et à promouvoir, le reste était abandonné à se demander dans quelle direction leur vie pouvait bien s'engager. Donc pour beaucoup, poursuivre une carrière dans la musique signifiait quitter le confort des scènes locales et se diriger vers l'Occident. Donc Surata cite que des superstars locales du Brésil ou du Kenya sont devenus chauffeurs de bus à New York ou taximan à Londres pour réaliser leurs rêves et partir en Occident. Tandis que les hip-hoppers commençaient à se déplacer dans le monde, ils développaient de nouvelles compréhensions d'eux-mêmes et des autres qui permettaient de rompre avec certaines idées fausses qui avaient affecté le hip-hop global. La diaspora était alors une base au travers de laquelle les hip-hoppers pouvaient créer des réseaux globaux plus vastes et tisser des solidarités multiraciales.
The story of the global spread of hip-hop is itself one of movement. A movement of ideas, a movement of commodities, a movement of people. If there is anything that marks this moment, it is as much the motion and mobility that connect people as it is the boundaries and the borders that divide. In this spirit, I'd like to close with a clip called Somos el Sur, We Are the South, a collaboration between the Chilean rapper Ana Tihu and Palestinian rapper Shadia Mansour.
Donc, Surata note que l'histoire de la diffusion mondiale du hip-hop est elle-même un mouvement d'idées, un mouvement de biens, un mouvement de personnes. Et s'il y a une chose qui caractérise ce mouvement, c'est aussi bien la mobilité qui connecte les gens que les frontières et les barrières qui les divisent. Donc, dans cet état d'esprit, elle voulait clore sa présentation en montrant un clip appelé Nous sommes le Sud, Somos el Sur, une collaboration entre la rappeuse chilienne Ana Tihu et une rappeuse palestinienne Shadia Mansour. De ce titre qui était voilà, excellent d'écouter ça en terminant, pour garder un petit peu de temps pour les questions. Donc, merci beaucoup, Surata, pour cette brillante présentation. Donc, on va prendre quelques questions. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup. Après, voilà. J'ai quelqu'un ici.
Good afternoon. Thank you very much for the presentation and for the long journey too. I'd like also to thank all the organizers for having put all this together and made it possible. So, I'm Jemima. From the from Africa department at UNESCO, and I've been very interested about your presentation, especially with all that concerns how to make to use hip hop to make a sense of community, whether it be to consolidate or to create a community. So. I hope you all know that at UNESCO we are working to build up and erect more constructive and social inclusive societies and communities. So my question goes to the, in the way of trying to understand more and asking you as a scholar, maybe you've not just worked in Africa, but you've been explaining among black communities around the world. But how can we, in our days, use hip-hop culture to erect social and inclusive societies? Yeah.
Yeah. So thank you for coming and thank you for your question. That's probably a big question for me to answer because I feel like my role as a scholar is more to observe the ways that it's being done in practice and to talk about, part of what I'm trying to do is to talk about how it is a project that's both, music is something that is making possible these kind of alliances, as we saw in that clip, the kind of, whether it's Pan-Africanism, whether it was the kinds of coming together like the non-aligned movement that we saw in the 60s and 70s, there's a way in which that's being recreated through music today, and there's a way in which music is taking on that role of providing, like you're saying, this kind of resilience and community building. And so, I'm not sure what can be done to promote that other than promoting the spaces, promoting the opportunities, just giving people the ability to pursue these kind of creative art forms and then see where that takes them.
Je vais quand même traduire peut-être, je ne sais pas si tout le monde y a besoin que je traduise aussi ses réponses, ouais. Oui, donc voilà, Swata a dit qu'elle ne sait pas trop comment répondre. Enfin, c'est une grosse question pour elle et que son rôle en tant que chercheur est plus d'observer ce qui se passe, mais que voilà, elle, son projet, c'est plus de parler, d'observer, de décrire la manière dont la musique rend possible ces alliances-là, en fait, que ce soit dans le domaine du panafricanisme ou dans ce qu'on a vu dans ce type de clip qui rappelle un petit peu ces alliances des pays non alignés qu'on voyait dans les années 60. Et du coup, voilà, elle n'est pas très sûre de dire comment est-ce qu'il faudrait promouvoir ça, mais quand en tout cas, voilà, la musique peut être un vecteur pour faire exister ces alliances-là.
Hi,
une autre question?
Hi, thank you very much for all the knowledge you brought up today. I just want to know, I'm interested about descendants from slavery, but especially people like Quilombo in Brazil. Who escaped slavery and created their own society inside the nation? Did you get in contact with those community and how they adopt the hip hop culture? If you happen to see that, thank you.
So I'm familiar with what you're talking about in Brazil, and those societies also exist in Cuba and other places where there's Afro-descendant communities. I didn't really see a lot of connection between those communities and their use of hip-hop culture, but definitely I think in the urban areas, the young people who use hip-hop culture make a lot of reference to those kind of societies, to historical figures. So in the song by Obsession Mambi, the Mambi says is a strong figure, a figure that comes from the history of slavery, that comes from the sort of the black anti-colonial fighters. And so these kind of historic figures, these traditional forms of organization and traditional religion, African religion, are all things that are brought into the music and are very strong within hip-hop culture.
Donc oui, elle est familière avec ces choses que tu décris, Sidi, au Brésil, et aussi sur les questions d'afrodescendance à Cuba, mais elle n'a pas exactement observé ça. Elle, ce qu'elle a surtout observé, c'est comment dans le contexte urbain, les jeunes vont amener plein de références à cette histoire de l'esclavage au travers de leur musique, comme le groupe Mambi qu'on voyait précédemment, et aussi des références à toutes les religions afro-brésiliennes, et voilà, cette place aussi de l'histoire de l'esclavage à l'intérieur du domaine religieux et des religions traditionnelles. Autre question ?
Thanks for the presentation. I was just wondering, you talk a lot about urban communities, and I get the impression that more and more the fight, especially in the global south, for the rights of underprivileged communities is going more and more towards, is focusing more and more on rural communities. And have you noticed, like, hip-hop maybe developing in rural communities in the countries you've worked in?
Yeah, I think it's definitely true that that MCs come from everywhere, and they definitely are MCs that come from rural areas and that talk about the kind of problematic and the kind of issues that are facing rural communities as well. I haven't come as much across actual kind of rap scenes, if you like, in those rural areas, and I think that's kind of the nature of rural life versus the nature of urban life. Urban life has the kind of infrastructure, it has the kind of dense gathering of people that allow things like hip-hop to thrive and flourish, and so I've seen more people coming to urban areas and grouping together there. But that's not to say that in smaller towns, for instance, I think during this conference people have talked about that, the ways that not just big cities but smaller locations and smaller localities can also be the site for very thriving rap movements.
Donc Voilà, il y a effectivement des MC qui viennent de ces zones rurales et qui parlent des problématiques qu'ils rencontrent dans ces espaces. Elle-même, elle n'a pas été particulièrement vers ces scènes rurales, parce qu'il faut noter quand même que les conditions, les contextes qu'il y a dans les villes, notamment les infrastructures, sont plus propices au développement de ces scènes musicales hip-hop. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ces scènes hip-hop dans le domaine rural. Et d'ailleurs, différentes présentations pendant le colloque ont abordé ces différentes scènes en deux des villes aussi. Another question?
Une dernière peut-être du coup.
Yes.
Thank you for your presentation. That's really interesting to see the les rapports de force en français, so between the north and the south. One thing that comes to my mind there, you mentioned that American artists come to Cuba and Cuban artists feel exploited. In Europe, we have the same problem with American artists, and in Africa, they have this problem with European artists. So I think, do you have other experiences there or analyzes in this perspective?
Part of what I was sort of arguing in the talk and that I argue in my book is that one of the interesting ways that we see this dichotomy being overcome is through diasporic rappers. So for instance, people who move from Cuba or move from different countries in Africa to the metropolis and establish themselves in those places and then create the grounds for a different kind of power relationship, because it's no longer, you know, the American rappers going to Cuba, but rather it is rappers, say Somali American rappers, who have relation in Minnesota, who have relationships with French rappers, or there is a different kind of relationship that comes about with the emergence of the diaspora. And so part of what I'm arguing is that if we want to look beyond these kind of inequalities that have been generated simply by the nature, not even an individual thing, but simply by the nature of the North-South divide, by the nature of the music industry. Sorry, I know this is a lot to translate. The nature of the music industry itself, that the diaspora can be one way to kind of obviate that.
I won't translate. si on m'autorise, continuing on Peter Reimer's question, it was not exactly the same question, but I was wondering nowadays, because we were talking about it a lot about Africa yesterday and about all this empire issue, and do you observe some kind of alternative networks that are created within the Caribbean area or in Australia or in Latin America that try to say, okay, we don't need your American market, we don't need your Western market, we can create our own solidarities, as I think Smoke is not here today, but Abdullah, you can talk about it, in the Senegalese scene, there are people trying to say, actually, why do we stay all the time considering them as the center? And do you observe such a kind of creation of network?
I would say two things. One is, for example, the clip again we saw, Somos el Sur, is a collaboration between Chile and Palestine, right? This sort of south-to-south connections that I think are very interesting and I think have been facilitated more and more by the rise of digital technology. So when I first went to Cuba, which was in 1998, there was no digital technology there right up until, 2005, that people were still making discs, handing them around from hand to hand. By the 2000s, the 2010 and beyond, people were able to upload stuff to the internet, to social media sites, to have their music on iTunes. And this digital technology all of a sudden creates the basis for different kinds of circulation and networks for people, not just in the US, to come to Cuba, can bring back tapes, bring back CDs, but actually people in very different locations, say in the Middle East, or say in Africa, or say in Asia, to be able to hear their music and have some kind of interchange with them.
Merci beaucoup, Sorata. Je crois que nous allons devoir en rester là pour cette belle conférence afin de laisser la place au reste du programme. Il y a une pause,
on va prendre...
On applaudit. Merci. Thank you so much.